Donc ce matin, j'ai pris pour méditation un des textes du jour, on en a déjà vu pas mal. Et ce texte, il se trouve dans une des épîtres qu'on a lues tout à l'heure, on a lu un passage. Elle se trouve dans l'épître de Tite. Les épîtres de Tite, c'est des épîtres, je dirais, c'est une des épîtres pastorales. Ces épîtres pastorales, elles comprennent deux épîtres de Paul à Timothée et à Tite. Le terme épître pastorale, je me suis posé la question, ça suggère que les lettres contiennent des recommandations pratiques pour prendre soin des chrétiens. L'épître de Tite est une épître courte qui contient un concentré de doctrine chrétienne. Elle est composée avec une belle maîtrise et renferme tout ce qu'il faut savoir pour être, pour vivre en chrétien. Cette épître est une lettre écrite à Paul, par Paul à un missionnaire peu connu, qui s'appelle Tite. Il était responsable d'une église en Crète. Le passage justement qu'on va lire, le passage de Tite 2, les versets 11 à 14, est le plus apprécié. Ce passage met en valeur la doctrine de la grâce. Lisons justement ce passage qui pourrait avoir comme titre « La grâce de Dieu est révélée ». Épître de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Alors j'ai deux solutions, soit je lis, soit je fais lire quelqu'un. Vous sentez comment? Et par contre, il faut le lire dans ma version, parce que la version que je vous mets, la première, c'est celle qui est en Nouvelle Français Courant. Donc je ne sais pas qui veut lire. Est-ce que Corinne, tu veux lire? Ah, vas-y, vas-y.
En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à refuser de mépriser Dieu et à refuser les désirs terrestres, pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. C'est ainsi que nous attendons le bonheur que nous espérons, le jour où se manifestera la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne, zélé pour accomplir ce qui est bien.
Merci. Et puis comme je suis un petit peu puriste, et puis qu'on a des formations à FBSE, on me dit qu'il y a la Bible, comment on appelle ça, aide-moi Marie.
L'étude.
La Bible, non, et puis non, la Bible, comment, les versions intégrales, pas intégrales, comment ça s'appelle.
Je sais pas pourquoi tu parles.
Peu importe, il y a les versions...
le disque direct.
Ah ouais, non, mais des fois, je ne l'ai pas noté. Donc là, je l'ai pris aussi en version seconde, si Martine, tu peux le lire.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est vrai qu'entre les deux versions, il y a au moins le verset 14 où ils sont d'accord. C'est exactement la même chose. Donc, je veux dire, c'est tout un programme pour nous. C'est tout un programme pour nous. Il faut qu'on soit zélé pour accomplir ce qui est bien. Je peux vous dire que là, il y a du boulot. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est parlant quand on lit plusieurs versions. Le reste est un petit peu différent, les mots sont un petit peu différents. Ce que je vous propose, c'est une prédication textuelle sur le texte justement de 2 Tite, versets 11 à 14, sur le thème de la grâce de Dieu. Celle-ci a souvent été mal comprise et a laissé la place à, malheureusement, du légalisme, aux règles d'Église qui minent la vie de chrétienne et qui enferment les chrétiens dans un pseudo-christianisme. Prenons d'abord le temps de regarder la définition de ce qu'on entend par la grâce de Dieu. J'ai été voir sur Wikipédia, la définition est la suivante. Dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la damnation éternelle. C'est un peu compliqué, mais voilà ce qui est marqué. Elle peut aussi correspondre au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance divine. En Occident, les rapports de la grâce, qu'elle soit efficace ou suffisante, et du libre arbitre ont été au cœur des controverses théologiques importantes. Et ça, on peut le dire, effectivement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet. Dans le dictionnaire Le Petit Robert, il y a plusieurs définitions du mot grâce. Le mot grâce, ça peut dire faveur, accorder librement quelqu'un, Ça peut être une disposition à faire des faveurs, à être agréable à quelqu'un. D'ailleurs, le mot charis, traduit par grâce, signifie aussi faveur. Ça peut être aussi le pardon. Donc j'ai dit le pardon. Ça peut être la remise de peine, la remise de dette bénévolement, accordée bénévolement. Ça peut être, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la faveur. Ça peut être la remise de peine. La grâce de Dieu, elle reprend ses trois premières définitions pour parler de la bonté divine et des faveurs et bénédictions qu'elle dispense. On pourrait aussi donner cette définition toute simple. Grâce, ça signifie « tu ne mérites pas, mais tu l'as obtenu quand même ». La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Et cette grâce, cette manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes, elle est en Jésus. La grâce de Dieu est salutaire pour tout, à tous les hommes. Cette grâce est apparue et son effet est d'abord de nous faire renoncer à nos convoitises et de créer en nous une vie morale et religieuse. Ensuite, de nous faire vivre dans l'attente de l'apparition glorieuse du Seigneur. Cette grâce, elle a eu sa pleine manifestation dans le sacrifice de Jésus-Christ, par lequel il nous a rachetés, purifiés, pour que nous lui apportions en propre. Voilà ce que Tite doit enseigner avec autorité. Apparemment, la grâce est en contraste avec la justice. Pour nous humains, en tout cas, elles sont inconciliables. Où la justice est exercée et la grâce n'a pas de place, ou la grâce rend la justice sans effet. Quand un chef d'État gracie un criminel justement condamné, il fait passer la grâce avant le droit. La grâce humaine met donc la justice de côté. Si Dieu agissait ainsi, il serait infidèle à sa propre nature, qui est amour et lumière, et c'est impossible. Jamais sa grâce ne se manifeste au détriment de sa justice. Elles sont toujours en parfait accord. Sa justice exige la condamnation d'hommes, tel que pour le pardon de nos péchés. Mais dans son amour et sa grâce, Dieu a envoyé son propre Fils, justement pour le pardon de nos péchés. À la croix de Golgotha, ses exigences saintes et justes ont été pleinement satisfaites par le Seigneur Jésus. Et là, en même temps, sa grâce admirable a brillé par l'accomplissement de la prophétie du psaume 85, verset 10. La bonté, ou la grâce et la vérité, se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Bonté et vérité. Si donc une harmonie parfaite se dégage de la manière d'agir de Dieu en grâce en justice, il reste pourtant une chose qui est totalement inconciliable avec sa grâce. L'accomplissement de la loi et la pensée de pouvoir subsister devant Dieu par ses bonnes œuvres. La loi exige, la grâce donne. La loi dit, fais cela et ce sera ta justice et tu vivras. Il devait donc y avoir une récompense de la part de Dieu pour celui qui observait la loi. Mais il s'est révélé qu'aucun Israélite n'a été capable de le garder. De même, tous les autres efforts humains sont vains. Les bonnes œuvres ne permettent pas davantage à l'homme de subsister devant Dieu. La grâce, c'est un pont. Une telle découverte est humiliante pour l'homme religieux. Mais considérons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Or, si par la grâce ce n'est pas plus le principe des œuvres, puisqu'autrement la grâce n'est plus la grâce, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La manifestation de la grâce salutaire de Dieu, de cette grâce qui renferme et communique le salut, ne peut avoir d'autre but final que la complète sanctification de l'homme pécheur. Et ce but, elle l'atteint par degrés, en tous ceux qui la reçoivent avec sincérité. Car elle ne montre pas seulement ce but, elle ne l'impose pas seulement comme une tâche légale à remplir, mais elle le fait aimer. Et par là même, elle donne la force d'y parvenir. C'est un pont. En disant que cette grâce est salutaire à tous les hommes, l'apôtre ne fait que répéter, entre autres termes, ce qu'il a déjà clairement enseigné d'ailleurs dans les passages de Timothée, c'est-à-dire que dans l'intention de Dieu, sa grâce peut s'étendre à tous et que l'œuvre de rédemption qui nous l'a acquise est suffisante pour tous. Les versets 11 et 12 qu'on a lus de Tite nous montrent que la grâce de Dieu se manifeste de deux manières. Elle apporte à tous les hommes un salut qu'ils ne pouvaient atteindre par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté, ce n'était pas possible. Elle enseigne l'enfant de Dieu, lui apprenant à vivre sombrement dans sa vie personnelle, justement dans ses rapports avec les autres, pieusement dans ses relations avec le Seigneur. Toute la vie chrétienne tient dans ces trois adverbes. Ce qui la soutient, c'est l'espérance qui remplit l'âme d'un bonheur présent. Notre Dieu Sauveur, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce nom, ce titre contenu dans le nom de Jésus, Dieu Sauveur, rappelle que nous lui devons tout. Toutefois, ne l'oublions jamais, il ne nous a pas sauvés pour nous, mais pour lui-même. La grâce divine est illimitée. La grâce divine est inconditionnelle, source de salut pour tous les hommes. La grâce est pour tous les hommes. Aucun péché, aucune faute ne nous empêche de venir à Dieu pour obtenir sa grâce. Aucune montagne, aucun fossé, aucun précipice n'est trop haut, trop profond pour Dieu, pour que sa grâce ne puisse nous atteindre. La grâce de Dieu est surabondante. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, peut-on dire, dans Romains 5, verset 20. Aucune limite dans l'abondance du péché ne peut empêcher Dieu d'agir. Là où le péché semble avoir dépassé toutes les limites, Dieu est capable de se faire déborder, de faire déborder sa grâce lorsqu'il a touché, par exemple, Saul qui tuait les chrétiens. La grâce de Dieu est une faveur de Dieu. La grâce peut se définir comme une manifestation, une faveur de Dieu. C'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Alors que la notion de bonté et d'amour parle de la nature de Dieu, dans ce qu'il a de plus sublime, alors que sa miséricorde parle de sa capacité à pardonner l'homme de ses péchés, la grâce nous parle de la capacité de Dieu à donner sa faveur et ses dons sans que l'homme pécheur le mérite. La grâce ne peut exister que par l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. La grâce divine est offerte aux pécheurs. Alors que la notion de bonté, la grâce ne s'offre jamais aux innocents. Elle est cadeau fait aux condamnés. On peut lire en Romains 3, verset 23-24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » La grâce divine nous offre le salut. C'est donc seule la grâce de Dieu qui est la source de notre salut. En Éphésiens 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu est révélée. La grâce était comme cachée dans l'Ancien Testament, bien que présente à bien des occasions. La grâce de Dieu restait cachée pour les prophètes de l'Ancien Testament et même pour les anges. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, on le trouve en Romains 16, verset 25, cette grâce a été révélée, dévoilée avec la venue de Jésus. C'est lui qui l'a amenée dans ce monde et l'a manifestée aux yeux des hommes. Elle est révélée en Jésus, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cette réalité était déjà promise dans l'Ancien Testament. On peut le voir dans le psaume 85, le verset 10. L'amour et la vérité se rencontrent, je l'ai dit tout à l'heure, se rencontreront. Il n'y a que dans le sacrifice de Jésus qu'on trouve la rencontre entre l'amour de Dieu et la justice basée sur la vérité. Nul autre ne pouvait nous ouvrir la porte de la grâce et de l'accès au trône de Dieu. À tous ceux qui croient en lui, c'est par la foi que nous pouvons accueillir ce mystère caché. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. La grâce divine nous enseigne à renoncer à une vie de mépris de Dieu. Renoncer à la chair et aux convoitises. La chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est un point essentiel pour tout chrétien qui vit sous la grâce. Mais revêtez-vous du Seigneur. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, est dit en Romains 13, verset 14. La grâce nous éduque à renoncer à ces deux domaines, à vivre avec sagesse selon la justice et la piété, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Comme nous le lisons dans une transcription qui a été faite par Alfred Kuhn de l'Épître de Tite. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde, et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ne s'est-il pas livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Qu'espèrent les chrétiens de nos jours? Qu'espèrent les chrétiens de nos jours? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La position du chrétien ici-bas est en état d'attente. L'Église attend l'apparition de son Sauveur, qui sera aussi glorieuse pour le Seigneur lui-même et pour ses rachetés que sa première apparition avait été humble et remplie de souffrance. Cette pensée, cette attente habituelle est tout ce qu'il y a de plus propre à détruire en nous ces convoitises mondaines et à développer la vie chrétienne et sainte dont l'apôtre vient de retracer les principaux caractères. En attendant l'objet de notre espérance, il est aussi important de persévérer dans la grâce de Dieu. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Est-il dit en Romains 12, verset 12. En attendant son retour, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Pour partager la gloire de Jésus, notre grand Dieu, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui s'est révélée pour nous. Puisse Dieu nous donner de vivre sa grâce dans tous les domaines de notre vie. C'est elle la source de notre salut, mais elle englobe bien plus que le pardon de nos péchés. Elle nous ouvre les portes à toutes ses bénédictions. Nous ne méritons jamais sa grâce et ne devrons jamais faire des œuvres pour l'obtenir. Elle nous est gratuitement offerte pour nous permettre d'être instruits par l'Esprit Saint. En Tite 2, verset 14, et c'est le passage que je vous ai fait remarquer tout à l'heure, qui est cité dans pratiquement de la même façon dans les deux textes qu'on a lus, un peuple élu, distingué, qui lui appartient en propre, comme Israël est souvent appelé dans l'Ancien Testament. Cet adjectif ne se trouve qu'ici. Luther le traduit par cette périphrase, un peuple pour sa propriété, un peuple pour sa propriété. Le but final de la rédemption, ce qui a porté le Sauveur à se donner pour nous, est clairement exposé dans ses paroles. Nous racheter, nous purifier, se créer un peuple particulier, zélé. Un peuple zélé pour servir et accomplir. Et tout cela est produit par la manifestation de la grâce. Une telle vie, riche de tous les fruits de cette grâce, est donc le seul signe certain que nous y avons part et que nous appartenons à Jésus. Tout en attendant son retour, nous ne devons jamais oublier la raison de sa première venue et du sacrifice de sa personne. Il s'est donné lui-même, non seulement pour nous sauver de notre culpabilité et du châtiment dû au péché et afin de nous racheter de toute iniquité. Si le châtiment dû au péché était le seul à avoir été aboli, sans que la domination du péché sur nous soit vaincue, il n'y aurait qu'un demi-salut. Christ s'est aussi livré pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, un peuple zélé pour servir et accomplir ce qui est bien. Nous devrions accomplir avec enthousiasme des actes d'amour en son nom et à sa gloire. Si la grâce nous enseigne, elle le fait par divers moyens que Dieu met sur notre route pour nous instruire des choses du royaume. Mettons en pratique la vie nouvelle en Christ. Marie-Noël l'a lu tout à l'heure avec le passage de Tite, et moi je voudrais le relire avec ce passage de Galates 6, les versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Pouvons-nous dire que nous avons compris les enseignements de la grâce de Dieu et que nous en avons tenu compte ? Tout seul, non. C'est le regard de Jésus qui corrige. Le regard de Jésus qui a corrigé l'apôtre Pierre lorsqu'il l'a renié. C'est l'attristement de l'esprit dans ma vie qui me fait comprendre que j'ai fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Je vais terminer par cela. Je me l'applique à moi-même. Devenons des adultes qui savent percevoir les yeux tristes du Seigneur à chaque fois que nous nous éloignons de sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce.